Chapitre 13. Agnès reçoit une autre visite inattendue. Mrs. Barnabé revient chez elle. Elle y surprend la personne qui était en visite. Pendant les 7 ou 8 mois qui s'étaient écoulés depuis que le lecteur a pris congé de Miss Compton, le temps n'avait pas passé sur la tête de la vieille fille de la même façon que durant les années précédentes. Elle ne s'était pas sentie la conscience parfaitement en repos. Le moral avait été soutenu chez elle par la violence même de l'indignation et du dégoût que Mrs. Barnaby lui avait inspiré dans leur dernière entrevue, à peu près comme l'effet que produirait un cordial puissant, mais nuisible, et le fait seul qu'Agnès était l'hôte et la compagne de cette odieuse femme, suffisant amplement à lui communiquer la contagion du mal, la vieille dame emportée s'était trouvée pendant quelque temps parfaitement autorisée à repousser avec l'aversion la plus vive tout souvenir de la jeune fille. La lettre de Mrs. Barnabé, demandant un secours pour l'entretien d'Agnès, était arrivée à Compton Bassett, précisément au moment où la violence du ressentiment de la vieille fille commençait à s'apaiser et avait agi juste comme le ferait une goutte de térébenthine sur une flamme expirante. Sa haine et sa fureur s'étaient ranimées plus que jamais. Comme nous l'avons vu, Miss Compton avait répondu à cette demande par le refus le plus insultant, trouvant dans cette manière d'agir un vrai soulagement, et une fois ceci accompli, sa colère était tombée. Mais sa santé et son entrain étaient tombés aussi à leur tour. Elle se rappelait, alors qu'il n'était plus temps, que c'était de sa faute à elle si Agnès vivait avec cette Mrs. Barnabé. Sa conscience lui disait qu'elle n'avait pas agi comme elle l'aurait dû à l'époque de la mort de son frère, quand même Agnès eut hérité de la détestable beauté des Wissett. Puis sa mémoire faisait passer devant elle comme une vision cette ravissante créature dont elle avait repoussé les caresses le jour où les outrages de la veuve l'avaient presque rendue folle de rage, et la pensée que, pour la punir, elle ne reverrait jamais plus cette charmante fille pesait lourdement sur son cœur. Ce fut par une après-midi d'un beau jour de septembre que la lettre d'Agnès lui arriva. Miss Compton était assise, comme d'habitude, dans son bosquet, entourée de ses fleurs et de ses abeilles. Seulement, ses yeux noirs n'étaient plus aussi vifs, elle lisait sa Bible selon sa coutume quotidienne et avait presque entièrement perdu le goût des romans. Ce n'est pas une chose facile que de décrire l'état dans lequel la jeta la lettre d'Agnès. Les reproches de sa conscience furent bien vite dissipés par la pensée joyeuse du succès dont ses efforts avaient été couronnés dans la gestion de ses biens. Avec quelle largeur sa fortune actuelle ne lui permettrait-elle pas d'accueillir la pauvre orpheline qui cherchait un refuge dans son sein? Toute la force, toute l'énergie qu'elle semblait avoir perdue reparurent. Il y avait dans cette toute petite vieille plus de courage, plus de détermination que main dragon de 6 pieds de haut. Sa résolution fut prise à l'instant même, sans aucune faiblesse, sans doute, sans hésitation, sans se perdre dans les quand et dans les comment. Seulement, comme elle sentait qu'elle aurait besoin de toutes ses forces, elle songea à les ménager, et ce fut d'un pas aussi calme, aussi ferme que d'habitude, qu'elle remonta dans son salon. En y entrant, la première chose qu'elle fit fut de boire un verre d'eau. La seconde, de se mettre à rédiger un billet pour le maître de poste de Silverton, lui commandant d'envoyer à Compton Bassett, le lendemain au point du jour, une chaise de poste à 4 chevaux. Ensuite, elle sonna, donna son billet à Peggy Wright, la plus jeune des filles du fermier qui la servait en particulier, lui ordonnant d'aller dire à son père de venir immédiatement lui parler. Une lettre reçue, un billet envoyé, étaient des événements assez extraordinaires pour que la curiosité du bon fermier fût fort excitée. Il accourut donc aussi promptement que pouvait le désirer sa propriétaire. « Asseyez-vous, maître Wright, » dit Miss Compton. Et le fermier s'assit. « Maître Wright, » reprit-elle, « il faut que je quitte Compton Bassett demain matin. Ma nièce, ma petite nièce, je veux dire, mademoiselle Willoughby, m'écris une lettre qui me détermine à aller à Londres afin de la prendre avec moi. Sûrement, Miss Compton, vous n'avez pas l'intention de vous en aller à Londres toute seule ? S'écria le fermier. Non, si avant ce soir, je puis arriver à trouver deux domestiques pour venir avec moi. » Le fermier la regarda. Il y avait quelque chose de tout à fait nouveau dans la manière de parler de Miss Compton. « Vous êtes un homme très actif dans la saison des foins, maître Wright, » continua Miss Compton en souriant. « Voulez-vous, pendant les 3 ou 4 heures qui vont suivre, être aussi alerte pour mon service que vous savez l'être lorsqu'il s'agit de sauver une meule d'un orage menaçant ?»« Certes, oui, je le veux, » répliqua chaleureusement Wright. « Dites-moi seulement ce qu'il faut faire, Miss Betsy, et je le ferai. » « Eh bien, allez chez votre sœur Appleby et demandez-lui si son fils William est sorti de chez le Squire Horton. » « Je n'ai pas besoin d'aller si loin, Miss Compton. Oui, il est en bas avec la maîtresse juste en ce moment, » dit le fermier. « Voilà qui est heureux. Il ne va pas s'en aller tout de suite, n'est-ce pas ?»« Oh, pour ça non, Miss Betsy. Il est venu pour s'en donner avec notre jeunesse et il est bien probable qu'il restera toute la nuit. » « Bien, alors, maître Wright, ayez la bonté de sceller un cheval, tandis que j'écris un mot à la banque. Il faut aller me chercher de l'argent à Silverton. »« C'est bon, je vais y aller, » répliqua le bon fermier en quittant la chambre. Heureusement pour Miss Compton, en ces circonstances, elle avait la coutume de laisser toujours à la banque de Silverton un dépôt d'une 100 livres sterling, soit pour ses charités, soit pour autre chose. Cette somme était parfaitement suffisante pour le moment, car, ainsi qu'on le croira facilement, Miss Compton n'avait pas de dette. Le fermier Wright parut très promptement, tout équipé pour sa course. « Vous recevrez 97 livres, 16 shillings et 2 pence, Wright, » dit la vieille fille en lui donnant la traite. « Si vous désiriez toucher le terme avant votre départ, Miss Betsy, » dit le fermier, « je vous le paierai bien volontiers 15 jours plus tôt. »« Pas une heure plus tôt, sous aucun prétexte, Wright, » reprit la pointilleuse propriétaire. « Je vais vous laisser mes instructions par écrit sur ce que vous aurez à faire à cet égard et aussi pour toutes les affaires qui vous concernent. Maintenant, envoyez-moi William Appleby. » Elle connaissait favorablement ce jeune homme depuis qu'il était tout enfant. C'était le neveu de son fermier, et il avait servi comme valet de chambre dans une famille des environs. Quelques minutes suffirent pour l'engager à son service. Il fut convenu qu'aussitôt arrivée à Londres, elle lui ferait faire une livrée. Ceci terminé, elle fit appeler Mrs. Wright, et en aussi peu de temps et de paroles que possible, il fut arrangé entre elles que, si le père n'y faisait pas d'objection, on convertirait immédiatement Peggy en femme de chambre pour le service de Miss Compton et de Miss Willoughby. Ce dernier arrangement faillit compromettre tous les plans si sagement combinés de la vieille fille, car chaque habitant de la maison eut la tête à peu près tournée à la nouvelle que Peggy partait pour Londres le lendemain matin. Quoique Miss Compton fût une personne très tranquille, aux habitudes régulières, qui donnaient peu de peine, elle n'en était pas moins considérée à Compton Bassett comme un personnage très important. Ses ordres, nettement exprimés, étaient obéis sans commentaire, si bien qu'avant l'heure du coucher, tout avait été arrangé, ce qu'il lui fallait pour partir et ce qui devait rester, exactement comme elle l'avait résolu. C'était une chose singulière que de voir la fermeté avec laquelle cette petite vieille, à l'air si délicat, poursuivait son but. Aucun obstacle ne l'arrêtait. Elle le déplaçait ou le surmontait avec une impulsion aussi irrésistible que celle de la vapeur qui force le train à se ruer le long des rails, rendant la route nette sous son passage, qu'il l'eût trouvée telle ou non. Au point du jour, la chaise de poste de Silverton, avec 4 bons chevaux et 2 jolis postillons, était à la porte et 10 minutes après, les adieux faits, les bagages chargés, Miss Compton, qui jamais encore n'avait quitté le comté où elle était née, courait au galop vers la métropole. « On vous paiera suivant votre manière de marcher, » avait dit William au postillon en partant. Et ils avaient marché comme font généralement les postillons soumis à un pareil arrangement. En s'assurant les services de ce William, Miss Compton avait montré un jugement aussi prompt que sensé. Ce garçon avait été à Londres à plusieurs reprises avec ses anciens maîtres. Il était capable, vif, intelligent, et justifia pleinement l'attente de sa nouvelle maîtresse. Elle lui avait donné carte blanche pour la dépense, et il dirigea le voyage aussi prestement et sans qu'elle se donnât plus de peine que si une demi-douzaine de conducteurs l'avaient menée. Elle dîna à Exeter et s'y reposa une couple d'heures, pendant lesquelles William s'occupa de louer une voiture pour continuer le voyage, arrangement par lequel la fatigue devait être moindre pour chacun, et qui permettait à cette petite vieille, douée d'un esprit si actif, de pousser ce soir-là jusqu'à Salisbury. Quand l'aurore parut, elle était en route, et grâce à la forme de paiement employée par William vis-à-vis des postillons, Miss Compton arrivait à l'hôtel d'Iberston à 2 heures de l'après-midi. On pourrait croire, d'après l'effort qu'elle avait fait pour atteindre la grande cité, où elle savait Agnès entièrement seule, que Miss Compton se serait fait conduire tout de suite à Half Moon Street. Mais tel n'était pas son plan. Elle voulait montrer à la pauvre enfant abandonnée un repentir du passé et une affection du présent qui nécessitait encore quelque chose. Elle avait bien expliqué ce qu'elle voulait à l'intelligent William, et tandis qu'elle avait dîné et fait un petit somme d'une heure sur le canapé, un équipage fort respectable était venu attendre à la porte qu'elle lui donna l'ordre de la conduire chez elle. 10 minutes après, la voiture la transportait dans un bel appartement, vaste et aéré, situé presque au bord de Wimpole Street. Miss Compton fut enchantée, tout à fait enchantée, de la prestesse et de l'habileté de son nouveau factotum. Sa voiture, ses chevaux, le cocher, le choix de la maison et de l'ameublement, voire même l'obséquieuse propriétaire, tout l'enchanta. Et le bonheur qu'elle ressentit en faisant prendre à Peggy les mesures nécessaires pour installer Agnès confortablement dépassait tout ce qu'elle avait connu jusque-là. L'intensité de ce bonheur était telle qu'il l'empêchait de sentir sa fatigue et donnait à son esprit une gaieté, à son cœur une légèreté qui la faisait ressembler, quand elle allait d'une chambre à l'autre, à l'une de ces petites vieilles fées bienfaisantes comme on en voit dans les contes français. À 8 heures, tous les préparatifs étaient terminés. Les ustensiles nécessaires au thé avaient été placés sur la table du salon. Miss Compton avait fait comprendre à Peggy qu'elle devait se considérer comme étant bien plutôt au service personnel de Miss Willoughby qu'au sien propre, et la voiture, qui était encore à la porte, l'attendait pour la conduire à cette entrevue de Half Moon Street, si désirée depuis longtemps et pourtant un peu redoutée. C'était le lundi qu'Agnès avait écrit à Miss Compton, calculant qu'elle pourrait recevoir une réponse le jeudi matin. Mais le jeudi matin était passé et il n'était arrivé aucune lettre. Et quand, vers 8h30 du soir de ce même jour, elle entendit une voiture s'arrêter et le marteau de la porte retentir comme un coup de tonnerre, la seule idée qui lui vint fut que c'était sa tante Barnabé qui revenait, et qu'elle allait avoir à plaider sa cause pour obtenir la permission de passer la nuit sous son toit. Elle n'avait pas plus de nouvelles de Cheltenham que du Devonshire, et le désappointement commençait à affaiblir son courage. « Que vais-je lui dire? Comment oserais-je me retrouver en face d'elle? Oh, si elle tient sa parole, que vais-je devenir ?» se disait-elle. Les pas approchés, et dans sa conviction que c'était sa tante Barnabé, en proie à la terreur, elle essaya d'ouvrir la porte qui communiquait avec la seconde chambre. Elle était fermée. Tremblante comme le faon réduit aux abois, elle jetait les yeux sur l'autre porte si redoutée, quand elle vit entrer timidement et tout doucement Miss Compton. « Tante Betsy !» s'écria la pauvre enfant en s'élançant vers elle et en tombant involontairement à genoux. « Oh, chère tante Betsy, est-il bien possible que vous soyez venue vers moi ?» Bien que la pauvre vieille dame fût douée d'une énergie supérieure, en cet instant, cette énergie faillit lui manquer, et sans un siège qui se trouvât près d'elle, elle aurait eu grand-peine à ne pas tomber elle-même à côté de sa nièce. « Agnès, pauvre enfant, dit-elle, vous me croyez trop dure et trop cruelle pour venir à vous ?» « Oh, j'ai bien mal agi, oui, terriblement mal. Me pardonnerez-vous, chère petite ?»« Vous avez l'air malade, Agnès, très, très malade. Et n'est-ce pas fait tout exprès pour moi, ce tourment de voir cette jolie joue sans fraîcheur ? moi qui vous ai pris en grippe à cause de vos belles couleurs de santé ?» Agnès était réellement fort pâle, et tout en n'ayant pas perdu ses sens, elle était si près de se trouver mal que, tandis que sa tante prononçait ces paroles passionnées, elle ne pouvait pas articuler un mot. Elle avait posé ses joues pâles sur les mains de la vieille dame. Il y avait dans cette attitude quelque chose de si caressant, et en même temps qu'elle attestait un si complet abandon, que la pauvre Miss Compton, hors d'elle-même, sanglotait tout haut. Mais ce premier paroxysme d'une si violente émotion ne fut pas plus tôt passé qu'elles ressentirent, avec un plaisir aussi vif que délicieux, le bonheur d'une semblable entrevue. À mesure que le sang revenait rendre aux joues délicates d'Agnès leur délicate fraîcheur, Miss Compton la regardait avec une admiration, avec un ravissement tel qu'il semblait assez vraisemblable, malgré le haut bon sens dont elle était douée, qu'elle fut sur le point de tomber dans un autre extrême et d'idolâtrer celle qu'elle avait si durement repoussée. De son côté, l'objet de cette affection si nouvelle, si peu espérée, semblait en ressentir les effets jusqu'au fond de son âme. Elle paraissait réchauffée et ravie, comme la tendre fleur qui, après la froidure glaciale de la nuit, reçoit les premiers rayons du soleil. À la fin, Miss Compton se rappela qu'elle n'était pas venue uniquement pour regarder Agnès, et, retirant ses bras, qu'elle avait jetés autour du corps charmant de la jeune fille, elle dit « Venez, mon enfant chéri, ceci n'est pas un toit convenable pour aucune de nous deux. Avez-vous beaucoup de choses à emporter ? Avez-vous ici plus d'effet qu'une voiture ne puisse en prendre ? Voudriez-vous m'emmener tout de suite, tante Betsy ?» s'écria la pauvre fille enchantée en se relevant vivement. « Attendez un petit moment, ce ne sera pas long. Il n'y a pas grand-chose, mes livres sont emballés, ma valise est faite et la bonne va m'aider. » « Sonnez alors, cher amour, pour que mon domestique descende vos bagages. » Agnès obéit. Sa valise, cette même valise qui lui venait de la tante Betsy, et la chère boîte aux livres furent chargées sur le siège du cocher et sur celui de derrière. William montait pour avertir ses dames que tout était prêt quand on entendit s'arrêter une autre voiture et retentir un coup de marteau sur la porte d'entrée grande ouverte. « C'est ma tante Barnabé !» s'écria Agnès avec un accent de terreur. « Croyez-vous, répliqua Miss Compton, du ton vif et spirituel des anciens jours. Je serais extrêmement charmée de la voir. » Seriez-vous sincère, tante Betsy ? Dit Agnès, redevenue toute pâle. Parfaitement sincère, cher enfant, reprit la vieille dame. Au lieu d'être partie sans l'en prévenir, il est bien préférable qu'elle soit témoin de votre départ avec moi. Elle aurait peut-être dit que vous vous étiez enfui en la volant. Chut ! S'écria Agnès, la voici. La voix de Mistress Barnabé, du moins, était déjà avec ses dames. C'était bien son retour qu'elles avaient entendu. La veuve n'avait pas plutôt renvoyé le cocher de son fiacre qu'elle avait commencé à questionner la servante de la maison, qui se tenait près de la porte ouverte, attendant que Miss Compton et sa nièce descendissent. « Qu'est-ce que c'est que cette voiture ? À qui est ce domestique qui est dans l'escalier ? Vous n'avez pas loué mon appartement, j'espère ?» furent les premiers mots de Mistress Barnabé. Oh, Dieu non, madame, répliqua la fille, tout est absolument comme vous l'aviez laissé. Alors, pour qui est cette voiture qui attend? Pour une dame, madame, qui est venue rendre visite à votre demoiselle. Ma demoiselle est effrontée coquine. Et quelles belles amies a-t-elle découvertes par ici pour venir la voir? Je voudrais le savoir. Mais que ce soit qui cela voudra, elles sauront l'opinion que j'ai d'elles. » Et en disant ces mots, Mistress Barnabé montait les dernières marches et entrait dans la chambre. Les deux chandelles qui étaient sur la table et dont les mèches n'avaient pas été mouchées ne lui permirent pas de reconnaître sa tante dès le premier coup d'œil. Cette dernière était enveloppée dans un long manteau de soie qui ne ressemblait à aucun des vêtements qu'elle lui avait jamais vu porter. La personne d'Agnès en deuil attira immédiatement les yeux de la veuve. Elle marcha vers sa nièce, le bras étendu, comme si elle voulait lui tirer les oreilles. Mais il sembla que cette action n'eût eu pour mobile que l'intention d'intimer à Agnès l'ordre de partir sur le champ, car, élevant la voix et parlant vite, elle dit « Comment se fait-il, mademoiselle, que je vous retrouve encore ici? Allez-vous-en. Je ne passerai pas une nuit de plus sous le même toit qu'une personne qui a si lâchement abandonné sa bienfaitrice dans le malheur. Et qui donc avez-vous fait venir pour vous tenir en joie, tandis que je... Et à cause de tout ce que j'ai dépensé pour vous encore. Qui que ce soit, cette personne-là aurait aussi bien fait de ne pas vous montrer tant de bonté, car elle est bien sûre de s'en repentir un jour. » Sur ce, Mistress Barnabé se retourna brusquement pour regarder cette visiteuse inconnue. « Ne me reconnaissez-vous pas, Mistress Barnabé ?» dit gravement Miss Compton. « La tante Betsy ? Dieu du ciel ! Pour quel motif avez-vous pu venir ici, madame ?»« Je suis venue, Mistress Barnabé, pour retirer de vos mains cette fille qui vous gêne si fort. N'est-ce pas bien aimable à moi ?»« Ah ! Voilà donc le complot ! » rétorqua amèrement la veuve. « Je comprends tout maintenant. Miss Agnès, au lieu de venir me consoler dans ma détresse, s'évertuait à cajoler une autre tante afin d'amener celle-ci à se sacrifier dans l'intérêt de cette demoiselle. Prenez-la donc, mais si vous êtes malade ou dans le chagrin, elle vous tournera le dos comme elle l'a fait pour moi. » « Oh, tante Barnabé, ne dites pas des choses aussi cruelles !» s'écria Agnès, très blessée de voir définir ainsi sa conduite devant une personne dont elle désirait si ardemment gagner l'affection. « Dites à ma tante Compton ce que vous m'avez demandé de faire et qu'elle juge entre nous. » « Fermez la porte, Agnès !» dit sévèrement Miss Compton et, se rasseyant de l'air inquiet d'une personne qui attache une grande importance à ce qu'elle va dire, elle s'adressa à Mistress Barnabé. « Ma nièce Martha, je veux vous demander comment cette jeune personne s'est conduite depuis qu'elle est avec vous, car je vous affirme que mon opinion sur elle dépendra beaucoup de la vôtre. Je ne vous cacherai pas que mes ressources ont infiniment augmenté. Près de 4 années d'une stricte économie, nièce Martha, m'ont mise à même de réaliser une petite fortune fort acceptable. C'est moi, et non mon fermier, qui ai racheté à votre pauvre père la moitié de Compton Bassett. Et comme j'ai à peine touché aux intérêts que ce bien produisait, ces mêmes intérêts composés ont porté mon revenu actuel à 1500 livres sterling de rente, en dehors de toutes mes autres dépenses. « Est-il possible ? » s'écria Mistress Barnabé d'un air si respectueux et si révérencieux que sa vieille tante eut quelque peine à garder son sérieux. « Oui, Mistress Barnabé, continua-t-elle. « Voilà l'état de ma fortune. Il faut bien cela pour introduire dans le monde et poser sur un pied convenable une jeune personne bien née qui doit tenir un certain rang. C'est pour cela que j'ai attendu jusqu'ici pour proclamer mon héritière. Vous ne serez donc pas étonné de l'anxiété avec laquelle je cherche à m'éclairer pour savoir quelle est celle de mes deux nièces qui mérite mes faveurs. Je ne veux me charger que d'une seule, comprenez-moi bien. « Mon but est de rendre à la famille Compton, en versant toute ma fortune sur une seule tête, le rang qu'elle occupait autrefois. » « Et tout le monde admirera ce but, » répliqua Mistress Barnabé avec une inexprimable douceur. « Quant à moi, je désire en toute sincérité que celle que vous choisirez, n'importe laquelle, puisse être digne d'une pareille générosité et la recevoir d'un cœur reconnaissant. » « C'est là précisément ce que je voudrais rencontrer, » reprit la vieille fille. « Et je vous avouerai, Mistress Barnabé, qu'avant votre arrivée, j'avais positivement mis dans ma tête qu'Agnès Willoughby serait cette personne. Mais ce que vous me dites m'effraie, et je vous serai vraiment fort obligée de vouloir bien me dire tout de suite ce qu'Agnès a fait pour encourir l'accusation d'avoir abandonné sa bienfaitrice. » « Il ne m'est que trop facile de vous satisfaire, tante Compton, » répliqua la veuve, « quoiqu'il me soit pénible de devoir parler contre l'enfant de ma propre sœur. Mais la vérité est la vérité, et puisque vous m'ordonnez de vous la dire, je vais... » « J'ai été arrêtée, tante Compton, et cela uniquement pour être restée à Londres 3 ou 4 jours de plus que je ne l'avais annoncé. Il est bien évident que j'avais l'intention de retourner dans ce méchant trou de Cheltenham, et d'y payer tout ce que j'y devais. La preuve, c'est que j'ai tout payé jusqu'au dernier liard. Mais ceci n'est pas la question. Quoi qu'il n'y eût aucun danger pour moi de rester en prison, j'y étais néanmoins pour 3 jours, et Agnès ne pouvait pas savoir si je n'y étais pas pour toujours. Eh bien, quand je lui ai écrit de la façon la plus affectueuse, ne lui demandant que de venir me voir dans ma misérable solitude, elle a répondu à ma lettre, qui aurait attendri un cœur de pierre, par un refus fort net. Demandez-lui plutôt si c'est la vérité. Qu'en dites-vous, Agnès? Est-ce ainsi que se sont passées les choses? Dit la vieille dame en se tournant vers la partie accusée.
Tante Betsy,
dit Agnès, mais elle s'arrêta, comme si quelque arrière-pensée l'empêchait d'en dire davantage.
Avez-vous refusé de venir me voir, oui ou non?
Demanda Mistress Barnabé avec véhémence.
J'ai refusé, répondit Agnès.
J'espère que vous êtes satisfaite, tante Compton, s'écria la veuve triomphante. De par son propre aveu, vous voyez que je ne vous ai dit que la pure vérité. Agnès ne répondit rien à cette apostrophe, mais, ouvrant un petit sac à ouvrage qu'elle portait à son bras, elle en tira deux papiers qu'elle plaça entre les mains de Miss Compton.
Qu'est-ce que cela, enfant ? Dit aigrement la vieille fille. Et pourquoi me le donnez-vous ?
Je vous prie de bien vouloir lire ces papiers, ma tante, dit Agnès. Miss Compton avait posé cette petite liasse devant elle, sur la table, pendant qu'elle cherchait ses lunettes, et tout en les ajustant sur son nez, elle ne quittait pas les papiers des yeux. Ce n'était pas sans raison qu'elle agissait ainsi. Elle savait bien que si elle ne tenait pas ses yeux ardemment fixés sur les papiers, la fine Mistress Barnabé, qui soupçonnait leur contenu, en aurait infailliblement pris possession.
Mon cocher et mes chevaux vont finir par se fatiguer d'attendre, j'en ai peur, dit Miss Compton. Pourtant, comme vous le dites, nièce Martha, la vérité est la vérité, et dût-elle résider au fond d'un puits, on doit se mettre à sa recherche. Voici une lettre adressée à vous, Miss Agnès, et sur le revers d'une autre lettre, voici quelque chose qui ressemblerait au griffonnage d'une jeune fille. Laquelle dois-je lire en premier, je vous prie ?
« La lettre, tante Betsy !» répondit Agnès.
« Qu'il en soit donc ainsi, » reprit la vieille fille, de l'air le plus indifférent.
Et, attirant à elle l'une des chandelles qu'elle moucha avec soin, elle commença à lire tout haut et d'une façon nette et délibérée la lettre déjà connue dans laquelle Mistress Barnabé requérait la présence d'Agnès et lui indiquait le chemin qu'elle aurait à prendre pour arriver à Fleet Prison. Quand elle eut fini cette lecture, elle replaça la lettre dans son enveloppe, tranquillement, sans dire un mot, sans même lever les yeux, ni sur l'une ni sur l'autre de ses nièces, et prenant l'autre papier, qui contenait les motifs de la résistance d'Agnès, elle le lut à haute voix, absolument sur le même ton, clair et net, puis elle le replaça dans l'enveloppe sans plus de commentaires. Se levant alors, elle s'approcha tout près de l'aînée de ses nièces, la regarda dans le blanc des yeux, avec un sourire infiniment plus provoquant que la plus violente expression d'indignation, et lui dit « Si j'ai bonne mémoire, ma nièce Martha, la dernière fois que je vous ai vue, vous m'avez offert quelques-unes de vos vieilles robes. Pourquoi donc ne m'en offrez-vous aucune aujourd'hui? Cela n'est guère gentil, car à voir combien vous vous faites belle pour aller séjourner en prison, on peut croire que vous portez de bien beaux vêtements quand vous êtes libre. » Donc, puisque vous n'êtes plus pour moi la gracieuse nièce d'autrefois, je crois que je ne reviendrai plus jamais vous voir. Quant à la jeune fille que voici, vous n'avez pas été assez sévère avec elle, Mistress Barnabé. Je vais aviser à la mieux enseigner, et soit en prison, soit hors de prison, lorsque je lui ordonnerai de venir me trouver, nous verrons si, pour me refuser, elle osera faire valoir des raisons aussi plausibles que celles qu'elle vous a données. S'il en est ainsi, naturellement, je vous la renvoie, Mistress Barnabé. Sonnez, méchante fille !» La porte s'ouvrit à l'instant. On eût dit que la servante était derrière. « Dites à mes gens que je descends !» dit la capricieuse vieille fille, jouant la grande dame d'une façon merveilleuse. Et se mettant en devoir d'accomplir devant Mistress Barnabé, furieuse mais accablée, la plus profonde, la plus cérémonieuse des révérences, elle fit signe à Agnès de la précéder dans sa voiture et quitta la chambre.